My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, j'accueille Catherine Caillot, cette conteuse de Gagnères qui organise très bientôt le 6e festival des contes sous le tilleul. Salut Catherine.
Salut, bonjour.
Bonjour. On entend un peu le chien qui se gratte à côté. Nous sommes dans des conditions de direct. Ouh là là. Et qui nous fait tout tomber. Comment il s'appelle ton chien?
Écoute, il s'appelle Sweetie.
Sweetie, bah ça lui va bien. Il a des yeux très sweet, sweet.
Il est brave.
Alors, donc, je voulais venir te rencontrer pour en savoir un petit peu plus sur le conte. Donc, le conte, c'est ton dada, c'est ton truc à toi.
Oui, c'est le conte, c'est une passion dans laquelle je suis tombée quand j'avais 18 ans. Mais peut-être même bien avant, parce que je pense que déjà, lorsque j'étais enfant, je racontais des histoires dans la cour de récréation. Et plus on s'approche du conte, plus on s'aperçoit que ce n'est pas du tout quelque chose pour les enfants. Bien sûr, les enfants, on leur autorise, hein, on les autorise à écouter des histoires, mais c'est beaucoup plus que ça. Les contes, c'est un trésor de l'humanité. D'ailleurs, ça a été déclaré patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
Ah oui, ouais. D'accord.
Ces contes, ces légendes, ces mythes, c'est vraiment le patrimoine humain et imaginaire.
Les légendes, ces mythes, comme tu dis, c'est donc des contes qui t'inspirent beaucoup, que tu...
Alors, si tu veux, dans les contes, il y a les contes merveilleux, on va dire, Barbe Bleue, Cendrillon. Il y a des contes facétieux, il y a des contes amusants, des contes de sagesse, des contes qui sont étiologiques, qui vont t'expliquer pourquoi il y a des feuilles sur les arbres, pourquoi les feuilles tombent à l'hiver, etc. Tu vas avoir aussi les légendes. Les légendes, ça vient de léguérer, lire, et ça te permet donc de lire le monde. Alors pourquoi cette montagne, elle a une drôle de tête? Pourquoi le pont, on l'appelle le pont du diable? Voilà. Et puis, il y a les mythes. Alors là, la mythologie, c'est plus... ce n'est pas pour expliquer le quotidien, c'est pour expliquer l'origine du monde, les dieux, les croyances. La mythologie, au départ, était des religions.
Mmh. Alors toi, quels sont tes préférés dans tout ça?
Moi, j'aime énormément les contes de l'Ardèche. Parce qu'il y est question de rivières, d'arbres, de magie, et aussi de farces de curés, de sorcières. J'aime beaucoup les contes de liberté et d'amour.
Ces contes de l'Ardèche, alors, qui te plaisent, qui t'inspirent et que tu racontes, tu les as retrouvés où? Parce que c'est pas si facile de trouver le patrimoine des contes.
Alors, plusieurs sources. D'abord, des sources livresques. Il y a d'excellents livres de contes populaires traditionnels. Et puis, moi, j'ai fait aussi de la récolte dans des villages. Je faisais des balades contées pour Balazuc, pour Vauguet, Ruons, Aubenas. Et pour faire ces balades contées ancrées dans un territoire, j'ai été mise en relation avec des personnes qui connaissaient des histoires. Et puis aussi, après, j'ai eu une commande pour faire un livre de contes. Voilà, qui est pas un livre d'ethnologue, hein, mais qui est un livre de conteuse. Donc, je me suis permis des libertés par rapport à un ethnologue. Mais pour ce livre de contes, je suis aussi allée avec un petit magnéto, comme toi. Et je suis allée interroger des gens directement, ouais.
D'accord, des anciens donc.
Voilà, des anciens ou des moins anciens, mais qui avaient reçu la transmission des histoires.
D'accord. Souvent des histoires en patois, j'imagine.
Alors parfois, oui, c'était en patois, alors en comprenant à moitié, et puis avec quelqu'un qui me traduisait en français. Voilà.
Sympa comme boulot.
Oui, c'était riche, c'était une belle période. Parce qu'aussi, quand tu racontes en Ardèche, ce qui a été au départ, maintenant, je raconte plus à travers la France dans des festivals. Donc, tu arrives, tu es vraiment une étrangère. Mm-hmm. Tu viens avec ton univers. Bon, les gens sont contents de venir dans cette découverte-là. Mais au début, comme tous les conteurs, j'ai commencé d'abord par raconter sur mon territoire. Et l'avantage, c'est que j'étais donc une locale qui racontait des histoires du local. À la fin de chaque spectacle, quelqu'un venait me dire « Mais dis donc, t'as raconté cette histoire, mais est-ce que tu connais celle-là » Et à chaque fois que je racontais, après les contes, on boit un coup, on mange un peu, et là, il y avait toujours quelqu'un pour me raconter une histoire.
Voilà, que donc, tu notais bien précieusement,
parfois non, parce que je n'avais pas idée que j'allais faire une récolte. Voilà.
Alors ce livre, il s'appelle comment, ce livre donc, où tu as récolté
Contes et légendes d'Ardèche, voilà. C'est aux éditions de Bruy, il est sorti il y a quelques temps, mais il le réédite régulièrement.
Il est illustré ?
Oui, par de très belles illustrations au crayon de Monsieur Comte.
Justement, dis donc.
Oui, dis donc, c'est fou. Mais Comte, c'est quelqu'un de formidable qui a parcouru l'Ardèche et qui a aimé énormément ce pays et qui a fait des illustrations très précises, très émouvantes de lieux ou d'objets.
Alors moi, je vous propose une illustration sonore de notre pays d'oc de l'Occitanie avec la mal coiffée à la gacha.
Sull'arestuglio del frume,
sull'arestuglio del frume, l'ho pulito giù benetto, l'anghisacchi tutto sul letto, il musu benghetta passa, l'ho pulito giù benetto. L'anghi se spas tutto sul letto, musu de che l'anghi dio yeu, musu de che l'anghi dio yeu, camboli trabaia trabai, came boli pausa me pausi, musu busa avance spastant, musu busa avance spastant. Bus d'unario della Gugliado, l'ubel moussu s'est avançat, l'ubel moussu s'est avançat, et la preso la putunado, su son chabal se la montado, miro dai si, miro dai la 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 la.
biro da 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 biro da
biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro
da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da
biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro
da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da
biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro
da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da
biro da biro da biro da biro da biro
da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro
da biro da biro
da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da
biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da
biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro da biro Dans ce livre, vous avez par exemple la version du Petit Chaperon Rouge, enfin une version.
Oui.
Et puis après, sont répertoriées toutes les possibilités de variantes. Et ensuite, sont même répertoriées toutes les variantes existant en France.
D'accord.
Donc
il y a plein de possibilités.
Il y a 200 possibilités pour le Petit Chaperon Rouge français.
D'accord.
Si on prend le Petit Chaperon Rouge mondial avec le Maroc, la Chine, là, on a d'autres versions.
D'accord.
Encore.
D'accord. Ouais. Si on prend l'exemple du Petit Chaperon Rouge, est-ce qu'il y a un auteur qui a été identifié ou est-ce que ça fait partie d'un patrimoine oral
Non, non, c'est comme tous les contes populaires. C'est vraiment un conte populaire traditionnel. Il n'y a pas une source, il y a une multiplicité des sources. Aucune personne au monde peut dire « je suis l'auteur du Petit Chaperon Rouge ».
D'accord.
Et donc, évidemment, Perrault et Grimm ne sont pas les auteurs du
D'accord.
Petit Chaperon Rouge. Et par exemple, pour le Petit Chaperon Rouge, il faut savoir que quand le loup arrive, il mange la grand-mère. Mais elle est grosse et grasse et il en laisse la moitié. Il a plus faim. Mais il veut pas que ça se perde. Alors ce qu'il prend, il le récupère, il le passe à la moulinette, à la grille fine, pour en faire du bon pâté de grand-mère. Et puis le sang répandu, il le ramasse, il le presse, et il en fait du bon jus de grand-mère. Et quand le Petit Chaperon Rouge arrive, fatigué par sa longue promenade, le loup lui dit « Peut-être que tu as chaud, peut-être que tu as soif, peut-être que tu as faim, mange, mange. Tu sais pas qui te mangera. » Et le Petit Chaperon Rouge se fait une bonne tartine de pâté de grand-mère. Et ça, évidemment, Perrault, pour ses dames de la cour, l'avait supprimé.
Quand on connaît cette version-là, on a du mal à imaginer comment d'un coup la grand-mère elle peut ressortir du ventre du loup.
Ah oui, non, ça c'est encore une autre version. Mais c'est très beau parce que, par exemple, ce conte, il y a multiples interprétations. Alors, Perrault, il en a donné une. Hein. « Attention, mesdemoiselles, ne sortez pas, vous risqueriez de rencontrer le loup.
Mm-hmm.
Hein.
Mm-hmm.
Promenons-nous dans les bois, pourvu que nous rencontrions le loup. » Mais quand on écoute la version où le Petit Chaperon Rouge donc, mange sa grand-mère, on est sur un autre symbole. On est sur le symbole, en fait, du deuil. Du fait qu'aucune femme ne disparaît complètement, elle perdure à travers sa descendance.
Descendant, oui.
Et que la petite fille, elle devient, elle porte en elle sa grand-mère.
Mm-hmm.
Et que la grand-mère peut mourir, de toute façon, l'enfant l'a en elle. Donc c'est un conte, en fait, de deuil.
Mm-hmm. Dit comme ça, c'est plus joli, d'un coup on respire.
Oui, mais les symboliques sont toujours, ancestrales, anciennes et donc puissantes.
Mm-hmm.
Et derrière ces symboles forts, il y a des choses qui permettent de résoudre. Hercule, le monstrueux Hercule qui est si fort, eh bien c'est tous nos gamins insupportables en classe qui ont leur corps qui grandit d'un coup, qui deviennent forts, qui deviennent violents, qui cassent la tête à quelqu'un pour un oui, pour un non, c'est Hercule.
Mm-hmm.
Donc racontons Hercule aux enfants et ils comprendront ce qu'ils sont aussi.
En train de vivre.
Voilà.
À l'intérieur.
Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tendresse libre jusqu'au bout, sur mon temps de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
C'était Cinzia Emilia. Vous êtes à l'écoute des Enfants du Nouveau Monde, justement, où nous invitons aujourd'hui Catherine Caillot pour nous parler de contes sur Radio 16.
J'imagine qu'il y a des versions plus ou moins édulcorées en fonction de l'âge, alors, où c'est raconté, c'est
ah
ça
non. Non, non, non. On raconte le conte que l'on sent être le plus juste et on n'édulcore pas. Enfin,
en tant que conteur,
qui se respecte. Vous portez ce conte, vous êtes là dans, aussi dans un... Alors, il y a un travail de création, il y a aussi un travail de transmission. Il y a des conteurs qui sont plus dans la création, c'est-à-dire qu'ils vont complètement se libérer du conte de base et partir dans, un, dans une invention très, très personnelle, et voire même ne pas prendre des contes traditionnels et ne faire que de l'invention personnelle. Hein. Et puis, il y a des conteurs qui sont dans la pure tradition de transmission. Donc là, ils prennent un peu le conte comme un, comment dire, comme un monument qu'il faut surtout pas abîmer. Je crois qu'il faut arriver à faire son chemin, moi, personnellement, entre les deux. Je crois que si un conte est trop puissant ou trop violent pour un conteur... Mais il y a tellement d'histoires. Prenons-en une autre.
Mmh, d'accord.
J'avais comme ça un conte que j'avais trouvé très très beau sur, sur une petite orpheline qui avait été abandonnée par ses parents. Et je l'avais lu et il m'avait touchée tout de suite. Et puis il s'avère que je vais raconter pour une classe où était ma fille. Donc c'était une petite intervention bénévole, sympathique, familiale, où je n'ai pas la pression que j'ai lorsque je suis programmée d'une façon professionnelle. Et donc ce petit conte que j'avais lu deux jours avant, j'avais envie de le raconter. Mais je n'avais pas fait ce travail de profondeur et d'enracinement personnel. Mais je l'avais déjà en bouche, j'étais capable de le raconter. Comment dire, la performance orale était possible, mais tu vas voir la difficulté. Je raconte cette histoire et la fin était assez difficile. Et en racontant l'histoire, je m'aperçois qu'au premier rang, il y a un petit gamin, je connais sa mère, et je comprends qu'en fait ce gamin est un gamin adopté, parce que c'est un petit Africain, elle est blanche. Je me dis, oh, mince, et moi je suis en train de raconter ce conte qui se termine, où la mère qui avait abandonné son enfant le retrouve. Et lui dit, ah, mon enfant, c'est toi. Et elle la prend dans ses bras. Et l'enfant glisse des mains de sa mère, sort de la maison, sort du village, repart dans la forêt auprès de celle qui a pris soin d'elle toutes ces années et ne revient plus jamais. Donc, tout d'un coup, je raconte cette histoire et avec ce gamin devant moi qui écoutait les yeux vraiment captés, j'ai changé la fin parce que tout d'un coup j'ai paniqué. Et alors... parce que je n'avais pas fait ce travail de profondeur d'appropriation. Et en discutant après avec une autre dame qui avait aussi adopté un enfant, elle me dit « Mais non, Catherine, attends, moi, mon enfant adopté a souffert énormément parce que tout le temps, je disais « Non, non, mais ta mère t'a pas abandonné, ta mère t'a confié à nous, Jean Jolivet, mais lui, il avait une colère, il avait besoin d'exprimer, donc on a fait tout un travail avec le psychologue, etc. etc. » Et je reprends mon compte qui se terminait de façon assez dure. Et oui, il est dur pour... ce n'est pas une fin à la Walt Disney.
C'est pas une
mais
end.
C'est une fin qui est très puissante et qui exprime un moment de colère et qui dit à un enfant, eh oui, t'as aussi le droit d'être en colère. Voilà, et t'as le droit de choisir, d'abandonner à ton tour. C'est possible aussi. Enfin, la multiplicité après des interprétations est très riche. Mais en tous les cas... alors que j'étais déjà persuadée qu'il ne fallait surtout pas enjoliver un conte, ça a fini de me persuader.
D'accord. La violence dans les contes, elle a toujours un sens, donc.
La violence dans les contes a toujours un sens, oui.
Il n'est pas forcément très lisible à certains moments.
Oui, c'est pourquoi le travail du conteur est important... De faire un travail, tu vois, là, il y avait, on parlera peut-être plus tard du stage qui s'appelle Pour compter, creuser. Je crois que c'est important de creuser en profondeur un conte pour savoir ce qu'on raconte.
Oui. En fait, si on n'a pas compris soi-même le sens, c'est difficile de raconter une histoire.
En fait, c'est possible. La performance orale sera bonne. Peut-être que même les gens vont se régaler, vont s'amuser. Mais
il manque le sens.
Le sens intérieur. Parfois, moi, je fais des recherches sur Tristan et Iseut. J'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai lu des thèses qui, évidemment, quand je raconte, ont complètement disparu de ma narration. Sinon, c'est plus un conte, c'est une conférence. Mais ces choses-là nourrissent mes personnages, ancrent, et je sais pourquoi. Si je raconte quelque chose de violent ou de somptueux, je sais ce qu'il y a derrière. Ou du moins, j'en ai compris un morceau. Parce que justement, l'intérêt, c'est qu'on ne cesse de découvrir de nouvelles entrées et de nouveaux... Et ça peut porter à discussion. Et on peut quand même aussi, le conteur, il peut tirer un peu le conte dans un sens ou dans un autre.
Ça doit être passionnant, les discussions entre conteurs, justement. Vous devez peut-être parler de tout ça.
Ah oui, oui, complètement. C'est... Oui, mais alors, toi, tu sauves Barbe Bleue à la fin. Ben, dans ce cas-là, non, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin oui, il y a des grandes discussions, des débats. Ça monte.
Passionné. Génial. Et la morale dans tout ça?
Eh bien, justement, Monsieur Perrault s'est empressé de coller une morale à la fin. Mais par exemple, pour le petit chaperon rouge, il résume le petit chaperon rouge à « Mesdemoiselles, méfiez-vous du loup ». Ah non, le chaperon rouge, c'est 1000 autres choses. Alors, le conteur ne donne pas de morale. Le conte, lui-même, il est riche d'une morale. Les enfants l'entendent souvent, pas en spectacle, mais en classe. Je discute après avec les jeunes et je leur dis « Est-ce que tu as compris cette histoire ? Elle t'apprend quoi ?» Et les gamins disent « Elle m'apprend qu'il y aura toujours quelqu'un pour m'aimer. » Ou une autre histoire dira « Elle m'apprend qu'il ne faut pas avoir peur. » Une autre « Elle m'apprend que ce qui compte, c'est ce que je suis, parce que les autres pensent. » Enfin, les enfants comprennent.
Génial. Et puis, pas tous la même chose.
Et c'est-à-dire,
comme tu disais, on abreuve à sa soif.
Et oui, parce qu'on a chacun des fragilités ou des peurs différentes. Et il y a des contes qui répondent à notre peur. Et si vous n'avez pas cette peur, ce conte, c'était une belle histoire. Et elle ne vous aura pas fait écho de façon aussi puissante que pour quelqu'un qui a la peur qui correspond au conte.
Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est...
d'Indochine sur Radio 16, sur le 99.2. Vous êtes à l'écoute des enfants du Nouveau Monde. Et maintenant, assez parlé autour des contes avec notre invitée, la conteuse Catherine Caillot. Désormais, ouvrez grand vos oreilles. Place à l'histoire.
Le bateau est en plein cœur d'une tempête. Il y a des éclairs, il y a des orages, il y a des vagues monstrueuses. Évidemment, tout l'équipage s'est solidarisé et tous ils écopent, ils prennent des seaux, ils prennent des bassines, ils prennent n'importe quoi et ils essayent d'envoyer l'eau par-dessus parce que s'il y a trop d'eau sur le bateau, il chavira et ça sera la fin. Puis tout d'un coup, ils s'arrêtent. Mais Nasreddin, mais qu'est-ce que tu fais ? Nasreddin, c'est celui qu'on appelle le fou, c'est celui qu'on appelle le sage. Mais Nasreddin, qu'est-ce que tu fais ? Et Nasreddin, lui, il a un seau. Il plonge son seau dans la mer et il jette l'eau sur le pont. Il plonge son seau dans la mer et il jette l'eau sur le pont. Mais Nasreddin, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, je fais ce que mon père m'a appris. Je me mets du côté du plus fort. L'histoire ne nous dit pas ce qu'il advint du bateau. Chacun comprendra ce qu'il voudra.
Voilà. Alors Catherine Caillot, toi, comment tu es tombée dans la marmite du conte ? Tu m'as dit que ça s'était passé dans une librairie à 18 ans.
Oui, j'avais 18 ans, j'étais sur le campus universitaire de Bron. Je traînais énormément dans une librairie qui était formidable. Et la libraire, alors que j'étais en train de lui raconter comment on faisait le gratin dauphinois dans ma famille, m'a dit tout d'un coup « Oh mais Cathy, t'es une conteuse !» Je ne savais pas ce que voulait dire ce mot. Et puis, quelques temps plus tard, elle me dit « Regarde, oh là là, il y a le salon du livre de Bron, tous ces livres à porter. » Alors moi, gentille, je lui dis « Mais tu veux que je vienne t'aider ?»« Ah oui, je veux bien. » Alors, je suis venue pour l'aider. J'avais pas débarrassé deux cartons de livres sur le stand qu'elle me dit « Regarde, il y a des conteurs, va les écouter. » Je lui dis « Oh, mais on n'a pas encore installé les livres. » Elle me dit « Oh, tu sais, j'ai mes petites affaires, je préfère les faire comme je veux. Va écouter les conteurs. » Je suis allée écouter des conteurs et je suis tombée dans la marmite.
Super, ouais, c'est beau, hein, c'est oui. Comme elle t'a pris sous son aile, cette
oui,
femme-là.
Oui, et magnifiquement, puisque pendant longtemps, j'ai cru que j'étais venue l'aider ce jour-là.
Ouais, très subtilement.
Absolument, ouais.
Magnifique. Alors, depuis, t'es tombée dans la marmite, tu t'es mis à donc éplucher les contes de France et de Navarre.
Voilà, d'abord à suivre une formation avec un des conteurs que j'avais entendu ce jour-là. Donc, j'ai eu la chance d'entendre pour mon baptême du conte Djihad Darwish, Mamadou Diallo et Jean-Roger Roland. Et ce sont trois excellents conteurs. Enfin, Mamadou n'est plus avec nous, mais son fils, Tierno Diallo, parce qu'il y a aussi un Ladji Diallo. Il y a beaucoup.
Toute une famille de conteurs.
Conte extraordinairement bien. Mais donc j'ai suivi une formation avec un conteur pour me mettre un peu, parce que j'avais envie de raconter, c'était évident. J'ai dit, ah oui, ça, c'est un truc pour moi. Mais j'avais rien en bouche, j'avais pas de patrimoine, j'avais rien.
Donc il a fallu choisir contes que tu avais envie de raconter.
Voilà, donc au début, je racontais tout simplement les contes que le maître de stage me donnait. Et puis après, petit à petit, on a des préférences, on va dans un univers, dans un autre, on explore, on lit, on rencontre, on raconte, on va voir des spectacles. Et, voilà. Surtout, on raconte énormément.
Tu lis beaucoup de contes ?
Dans ma bibliothèque, il n'y a que des livres de contes et des livres de poésie.
Tu es également enseignante de français au collège Saint-Joseph à Saint-Ambrois.
Absolument.
Et tu as créé la Blabla Compagnie, c'est ça ?
Alors, la Blabla Compagnie, c'est l'atelier théâtre du collège.
D'accord.
Donc on se voit une heure et demie par semaine et puis on va voir des spectacles ensemble et puis on fait des spectacles. On participe au salon Vivre Livre, on fait un spectacle, on fait les contes de Noël où chaque jour, les 15 jours avant les vacances, chaque jour, le collège est réuni et on raconte des contes, des contes de sagesse, des contes de lumière, des contes qui préparent à Noël, qui n'est pas qu'un gros déballage de cadeaux.
Voilà. Tout à fait.
Et puis le spectacle de fin d'année, bien
donc
sûr.
Donc ça, c'est une option au collège.
Oui, les enfants, c'est le soir, c'est de 5h, de 4h30 à 6h. Donc les enfants choisissent de s'inscrire à la Blabla Compagnie comme un club, quoi.
Super, donc une fois par semaine.
Oui.
C'est bon à savoir, pour ceux qui ne savaient pas.
Oui.
Et il y a autre chose, moi, qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu fais actuellement, c'est l'aide aux élèves en difficulté. Apparemment, tu as une méthode d'enseignement qui est vraiment basée là-dessus. Tu peux nous en dire plus ?
Oui, pendant très longtemps, j'ai séparé mon métier de conteuse et mon métier d'enseignante. Parce que je ne voulais pas qu'en tant que conteuse, on dise « Ah ouais, c'est une prof qui raconte mm-hmm. », ce qui est quand même un peu... ça dénigre ton, mm-hmm. ton talent artistique. Et je ne voulais pas non plus qu'au collège, on dise « Ah oui, bon, c'est l'artiste », voilà. Donc, il y avait une sorte de cloison, enfin, mm-hmm. sauf que je suis ce que je suis, donc ça suintait quand même en tous les cas en mm-hmm. classe, ça suintait de temps en temps, il y a des petites histoires qui sortaient. Et puis, j'étais quand même, on n'est pas fait pour être schizophrène, hein, il y a un moment donné, on se dit, mais comment, autant j'aime vraiment, vraiment, vraiment enseigner, et j'aime vraiment, vraiment, vraiment compter, et on ne peut pas comme ça aimer passionnément deux choses et les laisser décloisonner. Alors j'ai commencé à essayer de trouver des liens entre les deux, et puis principalement j'ai suivi une formation au CMLO, donc le Centre Méditerranéen de Littérature Orale,
qui est à Alès.
Voilà, qui est à Alès et qui est vraiment un centre, on a de la chance, c'est nationalement c'est quelque chose de très reconnu, hein, ce centre d'études, et bon, il est à côté de chez nous, qui était donc d'utiliser la littérature orale, donc les contes, les légendes et les mythes, pour lutter contre l'illettrisme, donc pour permettre une meilleure acquisition du langage. Mmh. Et vraiment, cette formation m'a influencé et a influencé complètement ma méthode d'enseignement, autant dans les classes générales, et tout particulièrement dans la classe de SECPA dans laquelle j'interviens, donc une classe d'élèves en difficulté. Et avec eux, toute ma pédagogie est basée sur, au départ, la littérature orale. Bon, c'est simple. L'idée de cette méthode, c'est que la langue française, elle est écrite et orale. Or, notre méthode d'enseignement tend à privilégier complètement l'écrit. Mmh. Interrogation écrite, rédaction, dictée, lecture, écriture...
Livre de maths, livre de géo, livre voilà. de livre, de livre, de livre.
Donc, or, notre langue est orale mm-hmm. et écrite. Donc, l'idée, c'est de travailler la langue orale, permettre une meilleure acquisition de la langue orale, qui conduit ensuite à une meilleure acquisition de la langue écrite. Mais pas la langue orale de « on fait un débat, on discute, on dit « bonjour, qu'est-ce qui s'est passé hier ?» C'est pas de l'oral de « il fait beau, hier je suis allée voir ci ou ça », non. C'est l'oral de la littérature orale, c'est-à-dire une oralité hyper construite, parce qu'un conte, c'est un enchaînement d'étapes précises. Si vous oubliez une étape, il n'y a plus rien qui tient le conte. C'est un enchaînement aussi d'images très fortes. Donc on travaille sur les images. Et les élèves, lorsqu'ils lisent et qu'ils ne comprennent pas, c'est parce que dans leur tête, entre le mot qu'ils lisent et leur l'image esprit, il n'y a pas d'image. Mm-hmm. Il n'y a que des mots qui s'enchaînent sans faire d'image, mm-hmm. sans faire d'action, mm-hmm. De film. Hein. J'imagine que toi comme moi, quand on lit, on a un film qui se déroule dans notre tête. Oui. Bon, il n'y a pas de film chez ces enfants. Donc, il faut créer l'habitude de se créer ses propres images.
Alors, quel est le manque qui fait que le film ne se crée pas dans la tête ? Est-ce que c'est parce que le vocabulaire est peut-être un peu compliqué et qu'ils n'ont jamais entendu ces mots ?
Il y a plusieurs sources de difficultés. D'une part, effectivement, comme tu le dis, il y a le vocabulaire mm-hmm. qui est appauvri. Donc, en faisant le travail sur les contes, il y a des moments où on ne fait que du travail sur du vocabulaire.
Définir.
On essaye de on ne dit pas « c'est un arbre », on dit « quoi ?» Tilleul, érable. Et là, j'ai été étonnée de voir parmi mes élèves des gamins qui en savaient beaucoup plus que moi sur, je ne sais plus, on parlait d'un oiseau, alors je ne me souviens plus lequel, mais alors on regarde, je dis donc, voilà, et les gamins sont capables de me dire de quelle couleur sont les plumes, etc. Parce que c'est des gamins qui crapahutent dehors plus qu'ils ne crapahutent sur leur livre de classe. Donc, bon, ou par exemple, le goût d'une anguille. Moi, je raconte « Renard et les anguilles ». Bon, mais alors, on s'arrête sur l'histoire de l'anguille. Alors, je dis « Bon, regardons dans le dictionnaire à quoi ça ressemble ». Et les gamins « Ah, mais non, mais madame, c'est comme ça. Mais moi, j'en ai déjà pêché. Et puis, ça a tel goût. Ah, mais t'en as déjà mangé. »
Voilà. Mais ça se
Donc,
mange.
c'est vraiment épatant. Mm-hmm. Voilà. Donc, on travaille bien sur le vocabulaire, puisqu'il y a quand même une pauvreté de vocabulaire, ou un enrichissement qui n'est pas le même que celui qu'on attend. Et puis,
oui, parce que c'est des enfants qui sont très forts en verlan, par exemple.
Oui, voilà.
C'est pas
et
le même registre.
On travaille aussi l'image elle-même, c'est-à-dire que dans notre monde gavé d'images, on a des images qui viennent toutes faites et finies de l'extérieur. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est de se faire une image dans sa tête. Donc, il y a aussi un travail sur, sur imaginer. Donc, je leur dis, par exemple, c'est un homme qui décide de partir. Bon, après, voilà. Je te raconte pas, mais alors je dis, bon alors cet homme, il est jeune, il est vieux, il est grand, il est fort, il est petit, il est brun, il est blond. Alors je pose des milliers de questions et les gamins ne répondent pas à voix haute, mais doivent répondre dans leur tête et définir leur image. Et après je dis, mais il marche, il fait froid, il fait chaud, il y a du vent, quels sont les parfums? S'il fait chaud, est-ce qu'il transpire? Vous lui avez mis un chapeau, une casquette? Et par terre, c'est des cailloux, c'est des feuilles, c'est de l'herbe. S'il fait chaud, l'herbe elle est sèche ou elle est verte. Donc on définit comme ça et on se crée des images.
C'est super. Et donc après, ils sont invités à parler de leur image.
Ensuite, ils sont invités à raconter leur histoire à l'oral, puis ensuite à l'écrire, ensuite à la lire à voix haute, leur propre version, et ensuite je leur donne la version littéraire du conte. Et ils découvrent le conte écrit par exemple par Gougo avec un phrasé très riche, mais ils connaissent déjà l'histoire, ils ont déjà une construction, une image mentale de ce conte, et quand ils le lisent, il y a une vraie lecture qui s'accomplit.
Ça donne envie de jouer, cette méthode. C'est très ludique.
Oui, ça donne envie
de participer. Ou alors, voilà. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on invente?
Puis on a la chance de recevoir des conteurs amateurs, mais aussi des conteurs professionnels. Parce que bon, j'ai des copains qui sont conteurs professionnels qui disent « Oh non, mais moi ça me plaît ce projet, je viens. »
Voilà. Super.
Donc des conteurs qui viennent une fois par mois dans notre classe et qui racontent.
Alors, bilan des courses, ça les fait accrocher, ces élèves, à la littérature et...
Honnêtement, jusqu'à présent, j'avais l'impression, quand j'enseignais, d'être sur un bateau qui coule parfois, et puis décoper, justement. Et si le bateau, il n'avait pas coulé à la fin de l'année, grosso modo, j'étais contente. Mmh.
Donc, le bateau n'avait pas coulé, ça veut dire la majorité des élèves qui se désintéressent totalement.
Oui, non, mais c'est-à-dire que j'avais maintenu... Bon, il y a des gamins qui naviguent, hein,
oui.
Pleine voile, hop, ils vous traversent la mer sans aucun problème. Et puis, il y a ceux, hop, ça rame, ça coule. Alors, hop, on écope, et puis on arrive sur de l'autre côté de la terre, hein, de l'autre côté de l'année, sans avoir coulé. C'est-à-dire que le gamin, je ne l'ai pas abandonné sur le chemin, je l'ai conduit jusqu'au bout de l'année, mais il n'y avait pas une énorme satisfaction. Mmh. Depuis que je travaille avec cette méthode, pour la première fois, vraiment, je vois ces gamins en difficulté qui mettent la voile et qui y vont.
Wow.
Il y a vraiment des choses qui se passent. Bon, c'est pas miraculeux, c'est pas magique, mais il y a vraiment des choses qui se passent. Mmh. C'est intéressant. Et d'ailleurs, l'établissement a intégré l'oralité dans son projet d'établissement, et j'ai d'autres collègues qui se forment à cette méthode et qui participent.
Donc c'est vraiment une méthode qui est enseignée au CMLO.
C'est vraiment une méthode.
Une méthode d'enseignement.
Voilà, une méthode d'enseignement.
On va se pencher sur le festival, donc la 6e édition du festival des contes sous le tilleul que tu organises à Gagnères début juillet.
Oui, à Gagnères, bah, tu vois là, juste
ici.
Sous le tilleul de la maison.
Ah, mais c'est ici, c'est chez toi.
C'est ça, tu vois, regarde, ça fait comme une voûte. Et là-bas au fond, on met la scène. Derrière le compteur, il y a ce rideau de feuillage. Et le public, il se met tout sous l'arbre. On est comme
fabuleux,
ça,
cocooné, c'est beau, il est merveilleux. Si, là, oui, je et comprends oui. mieux le
quand
titre
on a vu,
du conte.
Oui, quand on a vu le tilleul, on festival. S'est dit, il faut faire quelque chose sous cet arbre.
Génial. Voilà. Bon, alors, ça se développe parce que c'est la 6e édition,
oui,
donc j'imagine que c'est
édition.
De plus en plus connu. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y mettre mon nez. J'espère que cette année, je vais pouvoir. Et du coup, j'imagine qu'il y a de plus en plus de monde. Le tilleul, heureusement, qui pousse.
Oui. Non, mais il y a du monde et en même temps, ça reste très familial, très convivial, très simple. Les entrées, on a voulu que les entrées soient à prix libre pour que l'argent ne soit pas un problème mais un moyen de soutenir le festival. Mmh. Et puis comme il y a beaucoup de spectacles, Bon, ben, si les entrées n'étaient même qu'à 5 euros, ah oui, ben, tu es déjà à 4, 5 fois 4, 20. Et si tu veux voir 3 spectacles, après, tout de suite, ça fait des budgets astronomiques. Mm-hmm. Bon, alors, l'idée, c'est que les gens prennent du plaisir, se régalent. Et puis, ben, tout le monde donne au chapeau. Voilà.
Génial. Alors, donc, là, cette année, donc, c'est du 6 au 11 juillet, c'est bien ça.
D'ailleurs, je tiens à dire que c'est à prix libre, mais ça ne nous empêche pas d'avoir vraiment des compteurs professionnels de très haut niveau, parce que nous sommes subventionnés, hein, bien sûr. C'est principalement la subvention qui fait tourner le festival. Et puis après, la participation du public permet quand même de boucler le budget. Mmh. Quoi. Voilà.
C'est un gros boulot de préparer les dossiers de subvention.
C'est pas le truc le plus génial, mais bon, il faut le faire.
Et
puis c'est
normal,
la mairie comme la communauté de communes, c'est des personnes qui sont en charge de l'argent public, donc c'est normal qu'on leur fournisse un dossier qui soit quand même complet, argumenté, parce que eux derrière, il faut qu'ils puissent expliquer aux citoyens, aux quidam, pourquoi il y a de l'argent qui est donné dans une manifestation plutôt que dans une autre. Hein. Mm-hmm. C'est vrai que je trouve que c'est pas le truc qui me régale, mais je le fais vraiment avec sérieux, parce que je trouve que c'est normal.
Mm-hmm. Super. Alors, en détaillant un peu la programmation donc de ces combien de jours
Du 6 au 9. Disons que...
6 au 9 ou 6 au 11
Pardon, du 6 au 11, oui, t'as raison. Du lundi 6 juillet jusqu'au...
5 jours.
Jusqu'au samedi 11. Les 3 grosses journées, c'est le jeudi, vendredi et samedi. Mm-hmm. Et même, je dirais, le vendredi et le samedi, il y a énormément de choses, puisqu'il y a balade comptée le matin. Donc là, vous vous promenez avec Valérie Gouic, un conteur qui vient de la Martinique. Hein, donc je profite qu'il est en France, en métropole, à ce moment-là, pour le prendre entre deux festivals sur Contes sous le Tilleul, ou Leïla Darwish qui emmène au pays des mille et une nuits. Donc, et sauf qu'on se promène sur nos chemins par ici. Donc on marche un peu, on s'arrête sous un arbre, on s'arrête près de la rivière, on s'arrête au pied d'une maison et on raconte. Ensuite, l'après-midi, il y a la sieste comptée vers 14h. Donc là, c'est les transats, c'est les canapés, c'est être sous un arbre à l'ombre, tranquille, entendre la rivière au loin et écouter des histoires. Ensuite, il y a l'heure des pékelous à 17h. Donc ça, c'est pour les petits. Donc là, les contes, il y a un spectacle qui est à partir de 2 ans. Donc ça, c'est quand même bien spécifique. Là, par exemple, aux petits de 2 ans, évidemment, tu ne racontes pas le petit chaperon rouge. C'est tout, tu ne l'édulcores pas, tu ne le racontes pas, c'est pas un conte pour eux, c'est autre chose. Il y a plein de contes pour les petits.
C'était une question clairement que je voulais te poser tout à l'heure, le petit chaperon rouge, c'est à partir de quel âge?
7 ans.
Parce qu'aujourd'hui, dans les livres pour enfants, ils nous font des versions édulcorées,
ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, oui, après, si l'illustrateur a fait un travail génial, voilà, ça peut être mignon. Bah, après, c'est une petite balade en forêt, mignonne, où on a eu un peu peur du loup, et puis hop, on repart avec mamie sous le bras et on rentre à la maison. Voilà, c'est plus l'histoire intense et puissante de transmission nécessaire aux jeunes filles et aux jeunes gens.
D'accord, grandir, s'en souviendra, le petit chaperon rouge à ne pas écouter pour les moins de 7 ans.
Ça dépend dans quelle version. Et donc là, c'est l'heure des pékelous, où là, ils vont se régaler. Alors, Colette Minier, elle fait un spectacle qui est très drôle. Elle est fatiguée, piou-piou. Alors bon, ça va être très drôle et c'est à partir de 4 ans. Et c'est pour eux. Et là, vraiment, c'est pour les enfants. Ensuite, il y a les apéros contes. Alors, il y a une soirée, c'est l'apéro vélo avec notre figure locale du vélo qui est Roland Fangile, qui va nous révéler les secrets, les coulisses de l'étoile de Bessèges, qui est cette mythique course. Et puis, une autre soirée, c'est donc Éric Derrien qui fait le TEP, le tilleul d'expression populaire. Et là, c'est pas du conte. Ça sera des coups de gueule, de la poésie, du slam, des chansons. Voilà, d'autres choses.
Ouvert au public ?
Ouvert, c'est une scène ouverte.
C'est une scène ouverte.
Absolument.
D'accord.
Donc, Éric Derrien, donc, qui est un conteur talentueux et qui est voisin et ami.
Avec qui on a déjà fait une émission des Enfants du Nouveau Monde.
Voilà, ça m'étonne pas. Donc, lui, il est un peu le pilier central de cette soirée. Et puis, il a des invités qu'il va disposer au bon moment. Mais c'est une scène ouverte à ce moment-là.
Super.
Et puis, les soirées, enfin, les veillées. Donc là, il y en a tous les soirs, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Alors bon, on ne peut pas tout détailler, il faudra aller voir le programme qui est sur Conte sous le tilleul. Sur internet, on le trouvera, je le mettrai aussi à l'Office du tourisme, enfin, mm-hmm. Il y en aura à la radio, il y en aura un peu de partout. Mais on va dire qu'il y a quand même trois ou quatre belles soirées à pas louper. Il y a bien sûr Colette Migné, c'est une conteuse extraordinaire. C'est quelqu'un entre Yolande Moreau et Coluche. Hein. Elle est très drôle, très très drôle, et elle raconte petits arrangements sous l'édredon. Donc c'est...
Là aussi c'est pas pour les moins de 7 ans.
Oui, c'est même... De toute façon, s'ils sont trop petits, ils ne comprendront pas.
Bon, bah alors ça va, on peut venir avec eux.
Voilà, et puis on est à l'extérieur, donc un gamin qui en a marre, il peut aller courir dans le champ, hein, voilà. Et puis, voilà, non, effectivement, c'est plutôt pour ados et adultes. Et les ados rougissent, justement, parce qu'eux, ils comprennent toutes les subtilités de la chose qu'ils ne maîtrisent pas encore. Voilà. Ensuite, l'autre très très belle soirée, c'est Leïla Darwish, qui est donc une conteuse franco-libanaise. Donc elle parle français, elle a été élevée en France, hein, mais elle a un léger accent. C'est vraiment la Shérazade des Mille et Une Nuits. Et elle raconte les Mille et Une Nuits. Elle a un langage qui est magnifique et c'est très très beau. Donc là, c'est le vendredi soir, si on a envie de partir en voyage, en rêve, c'est le vendredi soir. Si on a envie d'éclater de rire, c'est le samedi soir. Et puis, il y a une très belle soirée qui est le jeudi soir. Donc, je remonte dans la chronologie, hein, je l'ai pris à l'envers. C'est le défi conte. Alors là, le défi conte, ça part du principe d'une croyance. Moi, je crois que les contes, très sérieusement, répondent à toutes les questions que se posent les hommes. Voilà. Je crois que la réalité des
les
contes,
humains.
Des êtres humains.
Pas oui. Que les hommes, non. Les femmes aussi ont le droit de se poser des questions.
Je parlais de l'humanité. Mais parce que nous, les femmes aussi, on se pose des questions.
Ça arrive.
Et même plus souvent qu'on le croit. Donc, voilà. Je pense vraiment ça très sérieusement. Et j'ai dit, bon, allez, posez vos questions et nous, on vous dira le conte qui répond à votre question.
Génial.
Donc, le public est là, il lève la main et il pose sa question. Et les conteurs sont dans les starting blocks et on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, se lève et donne le conte qu'ils pensent pouvoir...
C'est le jeudi soir.
C'est le jeudi soir. D'accord. Et donc là, ça permet d'une part de jouer, mm-hmm. d'autre part de voir tous les conteurs du festival, parce que là, tous les conteurs sont arrivés. Donc, ça permet d'entendre des voix, des univers bien différents les uns des autres. Et c'est une très, très belle soirée.
Super. Ouais. Avant de passer à la thématique du stage, parce qu'il y a 4 jours de stage qui sont organisés, je voudrais juste rappeler que le Festival des Contes sous le Tilleul est un partenaire, Radio 16 est un partenaire du festival.
Absolument.
Alors donc, qu'est-ce que c'est le stage? Je vois que la ligne, on va dire, directrice, c'est compter, creuser. Compter, point d'interrogation, creuser, point d'exclamation. Alors, donc ça, c'est pour ce stage, 4 jours de stage que tu animes. Hein,
oui, c'est ça.
Donc, de quoi s'agit-il, alors?
Il s'agit, en fait, chaque... Donc, d'abord, un conteur, il fait quoi? Il ne récite pas. Il ne lit pas. Il raconte. Donc, il raconte avec son propre imaginaire, avec... C'est pour ça que vous pouvez entendre la même soirée, trois versions de Cendrillon, plusieurs versions de Barbe Bleue, aucune ne sera la même. Chaque conteur le dit avec sa part de création personnelle. Alors comment on arrive à cette part de création personnelle? Eh bien en creusant, c'est-à-dire en allant en profondeur du conte et en allant en profondeur de soi-même. Voilà, c'est en gros l'idée.
D'accord. Donc là, c'est un stage, donc 4 jours de stage, donc du 6 au 9 juillet. Donc c'est sur
ça.
Le début du festival.
Ce qui est bien pour les stagiaires, c'est qu'en journée, on travaille le conte. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs manières d'approcher le conte, mais on travaille dehors, dedans. Enfin, bon, voilà. On le travaille physiquement, l'élocution, le souffle, la respiration et ce travail d'appropriation des images personnelles des contes. Et puis, chaque soir, il y a quelque chose. Donc, le lundi soir, c'est l'inauguration du festival. Donc, les stagiaires vont pouvoir entendre des conteurs. Le mardi soir, on a la chance que Marc Aubaret, du CMLO, vienne nous faire une conférence sur contes merveilleux, mémoire et création. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur quand un conte, il y a d'une part la création, l'imagination personnelle, et puis il y a d'autre part le conte qu'on doit transmettre ou pas, qui existe. S'il existe depuis la nuit des temps, le petit chaperon rouge, il a une robe rouge depuis la nuit des temps, pourquoi lui mettre une robe verte ? Il faut réfléchir ou pas. Enfin, ou pas. Toute invention n'est pas forcément fantastique. Quoi, hein, voilà. Donc, il va nous faire une conférence sur ce sujet. Ensuite, le mercredi soir, il y a une soirée conte chez l'habitant. Donc, c'est en fait le conte sous le tilleul, c'est donc dans mon jardin, sous mon tilleul, à la maison, quoi. Alors, c'est bien, mais il y a des gens dans le village qui ont bien envie aussi d'avoir une petite soirée conte chez eux. Donc, là, le festival vient dans leur jardin. Alors là, ils nous reçoivent super bien. Ils offrent un apéro, des petits trucs à grignoter. C'est très, très chouette. Le public s'installe et il a un spectacle. Donc, dans un milieu un peu familial, toujours très sympa.
Génial. Donc là, c'est chez...
Chez un autre habitant.
Dans une maison.
Voilà, dans la maison. Chaque année, alors, il y a 2 ans, c'était chez mes voisins qui étaient juste au bout. Et puis, il s'est mis à pleuvoir. Ils nous ont fait rentrer dans leur maison. On était dans leur salon, tous entassés. Il y avait une estrade en hauteur. Non,
pas une mezzanine.
Une mezzanine. Tu avais du public dans les mezzanines de partout. Enfin, bon.
Super.
Ah oui, c'était...
Super sympa. Hein.
Ouais, c'était super sympa.
Ouais, tu nous définis bien l'esprit convivial et familial de ce petit festival.
Voilà, c'est ça.
Ben, merci Catherine de m'avoir accordé cet entretien pour les Enfants du Nouveau Monde, et puis merci d'organiser ce festival à prix libre, c'est très généreux, c'est très chouette. On sait le boulot qu'il y a derrière, pas que dans les dossiers de subvention.
Merci. Eh ben, écoutez, soyez tous les bienvenus, et puis merci à toi d'être venu jusqu'à la maison.
À bientôt,
à
sous le tilleul.
Oui, sous le tilleul.
My gang will get you.
Retrouvez toutes les émissions des Enfants du Nouveau Monde une semaine sur deux, le dimanche à 19h et le samedi à 13h, et puis quand vous voulez sur le www.radio16.net.